La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Bienvenue à La quotidienne. Aujourd'hui, je suis avec Simon Bégin de l'Institut Jean Garon et Guy de Bailleul. Bonjour, messieurs.
Bonjour, mon cher Michel. Oui.
Bonjour. On va parler aujourd'hui d'un dossier, enfin celui de Rabaska. Ben pas, on ne parlera pas de pétrole comme c'était dans le temps, mais du moins les terres où ça devait être installé. On doit décider ce qu'on fait avec tout ça. Et ça tombe en même temps la même année où on regarde l'aménagement du territoire agricole. Donc il y a des beaux liens à faire avec tout ça parce que c'est pas réglé qu'est-ce qui va advenir précisément.
Et non, c'est là, encore en suspens, comme on dit.
Exact.
Alors,
exact.
Écoutez, oui, Michel, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui est engagé depuis des années dans cette bataille-là pour que les terres qui étaient dédiées au projet Rabaska de liquéfaction de gaz naturel pour exportation, que ces terres-là redeviennent des terres dans le patrimoine agricole du Québec. Alors, on reçoit Pierre-Paul Sénéchal, président du groupe GIRAM, le groupe d'initiative et de recherche en aménagement. C'est quoi exactement l'acronyme, Pierre-Paul?
Groupe d'initiative et de recherche appliquée au milieu.
D'accord. Alors, Pierre-Paul, on va se tutoyer parce que je dois avouer que dans une vie antérieure, Pierre-Paul a été mon patron. Alors, je ne l'appelais pas M. Sénéchal, je l'appelais Pierre-Paul dans le temps.
Alors, j'ai écouté pas mal intensément, oui.
OK. Écoute, Pierre-Paul, d'abord, peux-tu le résumer brièvement, le dossier Rabaska? Bon, c'est où ça, Rabaska, pour nos auditeurs?
L'espace Rabaska, c'est entre, très pratique, la frontière Lévis et Beaumont. Et brièvement, pour les auditeurs, là, pour pouvoir un peu visualiser un peu le territoire, c'est entre la route 20 jusqu'au rivage Saint-Laurent. Donc, on est en bordure du fleuve et c'est traversé par, je dirais, par deux artères. Une artère de transmission d'électricité, donc il y a la ligne de 730 000 volts d'Hydro-Québec qui arrive de Manic, qui traverse l'île d'Orléans et qui passe par Beaumont et traverse cet espace-là. Donc, c'est une première donne là, importante à considérer pour cet espace-là. Et il y a aussi une autre artère qui est la 132, qui est une route passablement achalandée.
Mais il y a aussi une caractéristique du site que peut-être les gens ne connaissent pas, c'est que pour arriver au rivage, il y a une belle falaise, là, quand même, c'est pas...
Oui. Vous allez en parler tantôt, mais il y a une falaise d'à peu près 150 pieds. Ici, on parle des intentions ou des intérêts du port de Québec pour l'espace. C'est important de savoir qu'il y a une falaise pour dire que c'est pas un endroit vraiment approprié pour faire un port. Dans le schéma d'aménagement de la ville de Lévis depuis 30 ans, on disait... Cette zone-là n'est pas appropriée pour une installation portuaire.
D'accord. Malgré ça...
En deux semaines, ils ont viré cette barre pour dire que c'est un site extraordinaire.
Ah bon, bien, gardons ça. Mais écoute, Pierre-Paul, pour venir à l'origine, on parle en 2007. C'est un territoire dans le territoire agricole, protégé. Et à ce moment-là, on a eu une procédure un peu exceptionnelle parce que la Commission de protection du territoire agricole avait comme refusé le projet de Rabaska. C'est-à-dire que il n'était pas question d'exclure ce territoire-là de la zone agricole, mais c'est pas de même que ça s'est passé. Peux-tu nous rappeler ce petit bout-là?
En fait, le consortium de Rabaska, formé de trois entreprises gazières, là, dont deux étrangères au territoire, et une qui est du Québec... Gaz Métro à l'époque, ont formé un consortium pour un projet de terminal méthanier de gazéfaction de GNL qui serait arrivé par la mer, et donc par le Saint-Laurent. Et ils avaient besoin d'un territoire. Ils ont réclamé à la commission, par l'entremise de la ville de Lévis, des zonages de 272 hectares. C'est le terrain qu'on vient de décrire. C'était très gourmand à l'époque parce que, ça, j'arrête pas de le répéter, parce qu'il y avait un projet concurrent à Kakuna, un projet similaire, concurrent, et qui, lui, réclamait 25 hectares, imaginez, dans le secteur. Et ici, on en réclamait 272. Donc, il y a eu une opération là, de dézonage massif et ce que j'appelle, moi, un gros projet de de spéculation foncière aujourd'hui, là, tel qu'on le voit.
Maintenant, il y a eu un décret du gouvernement pour...
La zone agricole,
oui, il y a eu un décret du gouvernement, la loi le permettait, dans des conditions un peu exceptionnelles, de soustraire le dossier de l'autorité de la commission, et c'est ce qui a été fait. Maintenant, il y a un aspect important, puis je pense que...
Ce qui est curieux, c'est qu'il n'y en a pas eu beaucoup.
Il n'y en a pas eu beaucoup. C'est une procédure assez exceptionnelle. Mais il y a un aspect particulier sur lequel j'aimerais que tu nous expliques. Dans l'entente, quand Rabaska a eu son décret, ils ont convenu quelque chose de particulier avec l'UPA, je pense. Ça, c'est un peu au cœur du débat actuel. Peux-tu nous en parler?
Donc, il n'y avait pas l'enjeu appétit territorial peut-être agrandi qu'on a aujourd'hui. C'est que, compte tenu que le Rabaska n'avait pas besoin de ces 272 hectares, c'était beaucoup, il y avait une zone, celle qui est comprise entre la ligne de haute tension qui divise le territoire en deux, donc toute la partie de la ligne de la transmission jusqu'au fleuve, il se pratiquait de l'agriculture et c'est une agriculture très ancienne. Hein? On est dans le berceau de l'agriculture du Québec. Là. Fait 350 ans donc, qu'on se pratique l'agriculture. Et Rabaska, finalement, n'avait pas besoin de ces terrains-là. Donc, il y avait une entente qui avait été conclue à l'effet que l'agriculture pourrait se perpétuer dans cette zone nord du terrain. Et advenant que le projet ne se réalise pas, l'entente prévoyait que d'un commun accord et du côté du PA et du côté de Rabaska, on s'organisait pour retourner ces espaces-là à la zone agricole.
Bon, écoute, ça demeure un point très important. Maintenant, on a vu récemment une grande conférence de presse pour faire valoir vos points de vue face à la demande, le projet du port de Québec d'acquérir ces terres-là et à un peu, pour mêler les cartes, le projet de la ville d'exproprier une partie puis d'empêcher. En tout cas, il y a comme une très forte convoitise, mais on reviendra. Okay. Mais la conférence de presse a montré quand même de forts appuis à votre cause, entre autres la présence remarquée du président de l'UPA, M. Caron. Comment ça s'est déroulé?
Ça s'est très bien déroulé. Nous, bien sûr, on salue l'implication de l'UPA au niveau de la fédération dans ce dossier-là. Une implication qui est franche et totale, je pense. On va avoir discuté avec les autorités. Et nous, on travaille avec l'UPA locale de Lévis, l'UPA régionale et le national. On a des contacts fréquents avec le national et les services juridiques au niveau national. Donc, il y a une complicité intéressante et elle est bienvenue parce qu'on la souhaitait depuis 2013.
D'accord. Donc, il y a eu un nouveau président depuis,
peut-être ça.
OK.
Et on avait gagné une partie en 2013 lorsque le gouvernement du Parti québécois s'est réalisé. On a eu une rencontre tout de suite avec le ministre de l'Agriculture, M. Gendron, à l'époque, pour faire ce qu'on tente de faire aujourd'hui. Là, on voulait un retour au territoire agricole, puis on voulait tout de suite la priorité que le gouvernement ne renouvelle pas les baux qui donnaient accès au fleuve sur le rivage. Ça relève du ministère de l'Environnement. Ce qui a été fait, Yves-François Blanchet, en 2013, déclaré que le projet était mort parce que le gouvernement avait retiré les baux donnant accès à l'eau.
Oui, alors, bonjour, M. Sénéchal, mais il semble que, avec l'abandon de ce projet, Rabaska, ce site reste quand même très convoité. Vous avez fait allusion au fait qu'il y avait une falaise, mais il semble que les gens pensent qu'il y aurait un potentiel portuaire malgré tout, un potentiel. La ville de Lévis semble aussi avoir des intérêts, effectivement.
Oui. Le premier intérêt qui s'est manifesté, c'est bien sûr le port de Québec, qui, en 2017, passait une entente avec Rabaska pour être acheteur privilégié. Ça lui permettait de se faire donner les autorisations de Transport Canada pour éventuellement acquérir l'ensemble du territoire. Nous, ça nous a allumé beaucoup, donc on est intervenu sur la place publique et on a fait connaître à la population le danger de voir arriver une société fédérale qui ne serait absolument non soumise à toute loi, comme le BAP, CPTAQ, aménagement et tout, dans cet espace-là. Je pense que sur la base des interventions qu'on a faites, la ville de Lévis s'est réveillée. On aurait dit qu'ils n'avaient pas pris conscience que ce secteur de la ville allait échapper à tout contrôle légal et réglementaire de la ville. Donc, c'est une des raisons, on pense, nous, que le 2 juin dernier, la ville a lancé son avis d'expropriation pour la partie sud, donc la partie entre la 20 et la ligne de haute tension d'Hydro-Québec. Mm-hmm. Et après ça, ben, un autre intervenant, encore plus important, le ministère de l'Économie, qui s'est révélé et qui est arrivé pour dire « nous, on serait intéressés à acheter l'ensemble ». Pour du développement économique. Donc, il y a trois partenaires intéressés actuellement.
Et l'agriculture est encore quand même qui est là. Mais écoute, un port avec une falaise de 150 pieds, puis les lots d'eau qui ne sont pas accessibles, d'après ce que je comprends, les lots d'eau, il faut comprendre, c'est la bâture, c'est ce qui est, oui, ce qui oui, est sous l'eau, qui est sous juridiction du Québec. Et là, il y a comme un blocage. Comment est-ce qu'on peut encore penser aménager un port à cet endroit-là?
Que ça se débloque si le gouvernement actuel décide d'accorder des baux. Mais comment développer une infrastructure portuaire à cet endroit-là? Principalement, je dirais, c'est possible parce que l'effet dans le cas du gaz, c'est qu'il y a deux façons de faire monter de la marchandise pour entreposage sur ces belles terres cultivées depuis 350 ans. C'est soit par tuyau, par pompage, donc du pétrole, ou par convoyeur pour des matières solides ou granulaires, là, comme on le fait à la baie de Beauport. Donc, ces deux options-là, malgré la falaise, restent possibles, moyennant l'aménagement d'une jetée dans le fleuve qui aurait à peu près 600 mètres, c'est-à-dire plus d'un demi-kilomètre sur pilote. C'est une grosse, c'est sous plan environnemental, là, c'est gros, mais on exclut, il faut exclure toute option ou scénario de remblayage du fleuve, là, comme on voulait faire à Beauport. Le gouvernement fédéral, sous plan environnemental, ce ne serait pas acceptable, donc ça exclut toute activité portuaire de conteneurs.
Guy, vous connaissez peut-être pas le site personnellement, vous êtes à Montréal, mais faudrait le voir, parce que au-delà de tous ces enjeux-là, il y a une question, Pierre-Paul, tu vas être d'accord, c'est un paysage magnifique, c'est un site magnifique. On est devant l'île d'Orléans, on voit le fleuve qui s'en va vers les îles de Montmagny. Alors, ce serait...
J'imagine tout à fait, effectivement, parce que j'ai déjà cette rue, cette route sur la rive sud, et c'est effectivement magnifique. Dès qu'on quitte l'agglomération de Lévis, on a un spectacle fantastique.
Oui. C'est le berceau du Québec, et nous, au GIRAM, notre mission, c'est la protection du patrimoine et paysage, l'aménagement durable et l'environnement. Donc, cette cause-là nous rejoint de triple façon là, actuellement. Et vous avez raison de dire que c'est un paysage magnifique. Et on est, comme je le disais, dans le berceau de l'agriculture du Québec, mais dans le berceau de peuplement du Québec aussi.
Écoute, Pierre-Paul, dans votre conférence de presse, il y a un terme qui est revenu souvent, c'est un retour intégral des 270 hectares dans la zone agricole. C'est-à-dire que vous craignez qu'il y ait comme un compromis, qu'il y ait comme, OK, on va laisser la partie qui est encore cultivée dans la zone agricole, mais le port va prendre son petit bout, la ville va prendre son petit bout. Est-ce que c'est un peu contre ça que vous...
Oui. En fait, si on laisse encercler l'activité agricole par deux autres activités industrielles, une au sud de la ligne de transmission et une au nord de la 132, là, l'agriculture devient vivable. Je me réfère à l'avis de la commission, parce que la commission a donné son avis provisoire et l'avis final en 2007 au gouvernement du Québec pour garder l'intégrité totale de ce territoire-là dans la zone agricole. C'est que tu peux pas pratiquer une agriculture viable là, sur un îlot sur lequel il y a d'autres, autour duquel il y a des activités trop intenses, là, parce que la commission, à l'époque, disait Dézoner 272 hectares affecte non seulement les 272, mais a des répercussions sur plus de 500 hectares autour.
C'est ça. C'est
souvent dit dans la vie à l'époque. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous, on a initié la demande en procédure auprès de la CPTAQ et on tient à la concordance qui régnait à l'époque. C'est-à-dire que c'est un grand territoire agricole. Faut pas oublier que la ville de Lévis, là, Simon, tu dois le savoir, c'est 70% du territoire de Lévis qui est encore en agriculture, qui est zoné. Mmh. Et c'est connecté, ça, sur la grande zone agricole de Bellechasse. Ouais. Donc, on fait un trou, là, industriel à 2,5 km à l'est de la ville de Lévis, là. On commence à déstructurer, là, cette grande zone-là.
Oui.
Pour le futur, puis le président de l'UPA, M. Caron, est parfaitement conscient de cet enjeu-là.
Écoute, Pierre-Paul, on va faire une courte pause. Reste avec nous. Il y a encore des choses intéressantes à dire sur le projet Rabaska. Entre autres, comment ça s'insère dans la grande révision en cours de la loi de protection du sol et est-ce qu'on ne peut pas faire des parallèles avec l'autre grand dossier dans le Québec, le sauvetage, la sauvegarde des terres de sur la charité. Alors, on revient dans quelques instants.
Écoutez la saison 2 de La vie agricole à Ma TV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver Ma TV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin, fromagerie L'Ancêtre, fromagerie La Station, fromagerie Les Basques, laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Alors, nous voilà de retour à la quotidienne et je vous rappelle qu'on est avec les gens de l'Institut Jean Garon aujourd'hui, Simon Bégin et Guy de Bailleul. On parle du projet Rabaska avec leur invité du GIRAM, Pierre-Paul Sénécal.
Oui, alors oui, bien écoutez, si vous voulez, mes chers collègues, je vais faire une petite parenthèse avant de reprendre la discussion, Pierre-Paul. En 2007, au moment où la décision de Rabaska a été prise, il y avait un personnage important à Lévis, le maire de Lévis, Jean Garon. Et bon, bien, des gens ont pu être étonnés. Comment se fait-il que le père de la loi de protection du sol était en faveur d'un projet qui soustrayait ces belles terres de la zone agricole pour un projet industriel? Bon, alors moi j'étais là, j'étais au bureau de M. Garon à la ville de Lévis. Il faut d'abord que... Bon, oui, M. Garon, il s'est battu bec et ongles pour la terre agricole quand il était ministre de l'Agriculture. Là, il était maire de Lévis. Donc, il avait une perspective différente. Il voulait... Bon, ça lui semblait important pour le développement de sa ville d'avoir cet grand investissement-là. C'était une source de revenus importante pour la ville. Mais il y a une autre considération que les gens peut-être ne savent pas. C'est que M. Garon, dans les années d'opposition, entre la fin du premier du mandat de M. Lévesque puis le retour de Pauline Marois, de M. Parizeau plutôt. Il a été critique de l'opposition en matière de transport. Et dans ce titre-là, il s'était beaucoup intéressé au transport maritime. Pour lui, c'était évident que le fleuve Saint-Laurent, c'était un atout majeur du Québec qui était sous-utilisé et mal utilisé. Donc, qu'il y ait un développement de la vocation portuaire du fleuve, que ce soit à Lévis ou ailleurs, c'était des projets qui me semblaient importants pour affirmer, consolider le rôle de porte d'entrée, là, si on veut, de l'Amérique du Nord qu'a le Saint-Laurent. Alors, il y avait toujours cette pensée-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, face à tous les enjeux climatiques, sortir du pétrole, il y aurait une autre perspective. Mais à l'époque, c'était ça. Alors, fin de la parenthèse.
Effectivement, Simon, les considérations environnementales à cette époque-là n'étaient pas tout à fait pareilles encore.
Oui, on commence. Non, c'était déjà là, mais pas avec l'acuité qu'on a aujourd'hui. Bon, Guy, écoutez...
Oui, mais justement, est-ce que M. Sénéchal, d'après Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le projet Rabaska et celui qui a suscité aussi beaucoup de réactions et qui s'est conclu par une issue positive? Je veux parler du dossier des terres des Sœurs de la Charité. C'est d'autant plus intéressant à se poser. Il s'agit en fait de volumes de terres comparables.
Oui. C'est des enjeux assez comparables. Et moi, je dis qu'on en parle souvent avec les organismes avec lesquels on est en contact. La grande agglomération de Québec a la chance de pouvoir mettre la main sur des espaces qui sont dans leur cours directement pour l'alimentation des futures générations québécoises, comme Montréal a peu. Il y a bien sûr la grande plaine là, de la Montérégie, mais nous, on est vraiment à la porte là, de la ville. Et pour la relève agricole, ces espaces-là représentent une source là, d'intérêt extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement du Québec devrait avoir une capacité de vision assez forte là, pour voir quel intérêt et quel atout ça peut représenter.
Dans le cas des...
La même chose pour la ville de Lévis, à un moment où les grandes agglomérations se sentent des responsabilités du point de vue de l'alimentation, puis alimentaire, c'est vrai pour Québec, c'est vrai pour Lévis, effectivement.
C'est des sols à peu près comparables, c'est des sols de très belle qualité. La zone Beauport, là, ça a toujours été considéré comme les meilleures terres maraîchères du Québec. Et l'équivalent de la rue Bicêtre, à peu près aussi. Là. Donc, on est...
Pierre-Paul, moi, je pense qu'il y aurait... Oui, il y aurait un parallèle possible aussi à faire entre le dossier des terres des Sœurs de la Charité et celui de Rabaska. C'est la force des citoyens lorsqu'ils se mobilisent puis se dressent contre des projets de puissants intérêts qui veulent porter atteinte à des valeurs comme ça. Dans le cas des terres des Sœurs de la Charité, ça a commencé par un producteur agricole voisin, M. Bédard, qui a écrit une lettre ouverte d'un journal, un cri du cœur pour qu'on sauve les terres des Terres de la Charité. Ça a été comme la bougie d'allumage d'un vaste mouvement. Là, à Rabaska, il y a un M. Gosselin, je pense, avec sa fille, qui sont des porteurs de ce cri-là. Non, on veut garder ça dans la zone agricole. Je pense que ça vient montrer quand même, on peut s'imaginer que petit citoyen dans son coin n'a pas de pouvoir, mais quand il se tient debout et qu'il y a des principes à défendre, je pense que ça peut faire une différence.
Oui. Et je pense qu'on est face à un deuxième dossier là qui représente, en tout cas à nos yeux, un véritable test en même temps dans le contexte que vous avez énoncé au début, là, de la grande réflexion qui a été amorcée à l'invitation du ministre de l'Agriculture, là, M. Lamontagne, sur l'avenir du territoire agricole du Québec. Ces 272 hectares aujourd'hui représentent pour nous un test assez symbolique de la volonté franche et sincère du gouvernement du Québec d'y aller à fond de train en faveur de la protection et non pas de la dilapidation. Parce que il n'y a pas beaucoup d'arguments pour ne pas réintégrer ces 272 hectares à la zone agricole. Là. Faire une zone naturelle, comme on le prévoit, que ce soit par le port de la ville ou le gouvernement du Québec, ça va même à l'encontre de la politique territoriale du Québec. Quand on regarde...
Oui, t'as raison.
Oui. ...la ministre et du ministre des Affaires municipales, des îlots industriels en périphérie, sans aucun rattachement à un périmètre urbain, sans service, là, c'est terminé depuis plusieurs années. Et normalement, nous, on exige un peu d'exemplarité de la part du gouvernement du Québec. Là, au moins qu'ils observent les grandes lignes directrices en termes d'aménagement territorial qu'ils ont énoncé et dont ils font la promotion. Et ça, Rabaska, là, industriel, ça va absolument à l'encontre des politiques actuelles du gouvernement.
Alors, est-ce que, selon vous, le fait qu'on soit justement dans ce processus de construction sur la loi de protection du territoire agricole va plutôt favoriser les chances d'une conclusion positive pour le dossier, c'est-à-dire la réintégration pure et simple de l'ensemble des terres dans la zone agricole?
Malheureusement, le rationnel et les bons arguments ne triomphent pas toujours. Il faut lutter. Nous, on est en lutte et il y a un ministre puissant à la tête du ministère de l'économie. On ne sait pas comment ça va tourner. On ne sait pas. Ça va jouer entre le ministre de l'Agriculture et lui, d'après moi.
Oui. Et oui, d'accord, oui, tu as raison de souligner ça, Pierre-Paul. D'abord, je reviens à ce que tu disais au début, le dossier Rabaska, ça a été, je me demande si c'est pas le premier cas d'un décret où le Conseil des ministres, le gouvernement du Québec, tasse la Commission de protection du sol pour favoriser un grand projet industriel. Il y en a pas eu beaucoup. Il y a Rabaska, je pense qu'il y a un projet de Google à Beauharnois, il y a l'hôpital de Vaudreuil, en tout cas, il y en a...
C'est pas pareil, ça. Il faut distinguer les. Il y en a eu plus que 6 en réalité. Il y en a eu, je pense, une vingtaine, mais pour des infrastructures publiques, des routes,
oui, oui.
Des agissements de route, ça, il y a eu des saisissements. Mais pour des projets privés, il y en a eu 6, à mon avis, à ma connaissance. Et un seul ne s'est pas réalisé, c'est celui de Rabaska. Bon. Donc, on a fait un dessaisissement totalement inutile, et on a dézoné de façon purement inutile. C'est la raison pour laquelle, nous, c'est l'argument qu'on fait valoir. Tout ça, c'est fait sans résultat, de façon purement inutile, et on demande à la commission d'examiner le fait. Là. Ça a été dézoné pour une usine de GNL et rien d'autre, absolument rien d'autre. Donc, on est en face d'une évidence, là. S'il
n'y
avait pas eu ça, ce serait encore agricole.
Et puis,
quand on constate effectivement l'existence de traits du côté de la loi de protection du territoire agricole, même s'il n'y en a pas énormément, il y en a eu quand même, vous venez de les mentionner, quand on se tourne de la loi de protection de l'environnement et du rôle du BAP, on s'aperçoit aussi que dans un certain nombre de grands dossiers, bien, on procède par décret, et qu'il peut y avoir, par exemple, sur le projet d'usine de
batteries, oui.
Propension à agir par décret, est-ce qu'elle n'est pas un peu préoccupante?
Ouais. C'est très préoccupant, on le sait. Ça, du côté des groupes environnementaux comme le nôtre, on se rend bien compte que il y a une tendance qui s'amorce pour s'éloigner du caractère rationnel des choses et y aller d'autorité. C'est un peu idéologique de la part des gouvernements.
Mais
il faut le dénoncer.
C'est pas un grand paradoxe qu'on voit, comme vous venez de le dire, peut-être une montée là, d'une volonté gouvernementale de tasser les... Enfin, il y a des garde-fous, il y a des chiens de garde, que ce soit dans l'environnement avec le BAP, le territoire agricole, la Commission de protection de l'école. On a l'air d'être capable de les tasser assez allègrement, mais c'est pas en contradiction avec ce qu'on voit partout, l'espèce de conscience qui se réveille partout, que y a les changements climatiques. On ne peut plus regarder les projets. Je pense qu'au Québec, il y a un temps où... il fallait absolument avoir des projets, créer de la richesse, tout ça. Mais aujourd'hui, l'analyse de ces grands projets-là, à l'époque des changements climatiques, à l'époque de la fragilité des chaînes d'approvisionnement, il y a des grandes contraintes qui apparaissent, qui nous sautent dans la face là, aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire dans un tel contexte qu'on revienne encore avec... Tassez-vous, là, on a un projet, là, puis les beaux principes de protection du territoire, protection de l'environnement, ça fout le camp. Alors, c'est pas une grande contradiction?
C'est une contradiction, mais en même temps, ça montre, je pense, la faiblesse d'analyse de nos gouvernements au niveau local et au niveau national. La vision à long terme est moins là qu'avant. Pourtant, on s'appuie sur des vieux clichés. Hein. Faut créer de l'emploi dans un contexte de postes non comblés tellement qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. On se dirige vers des cul-de-sac. On dirait que ces raisonnements-là ne sont pas là. On fonctionne sur les vieux clichés des années 80 encore. Ouais. Et on aurait besoin
là,
d'une grande réflexion là, en profondeur.
Ben, on en a une. Théoriquement, on en a une en cours là, avec le refond de la loi. Bon, écoute, Pierre-Paul, c'est tout le temps qu'on avait. C'était fort intéressant. Moi, on vous invite à, à continuer le combat. Peut-être en terminant, simplement dire qu'il y a déjà eu une belle victoire sur la rive sud de Québec, à Lévis, pour le territoire agricole. Ça a été l'abandon du troisième lien. Alors peut-être que l'abandon des projets de grands parcs industriels ou portuaires sur les terres de Rabaska, ça sera une autre belle victoire pour le territoire agricole sur la rive sud de Québec. Alors, merci beaucoup et bon courage.
Juste une seconde, c'est un abandon temporaire pour l'instant.
OK. Bon, bien, merci beaucoup, Guy. Merci, Guy. À la prochaine.
OK, merci. C'est vrai que je vous remercie.
Alors voilà, ça complète la quotidienne d'aujourd'hui. Là-dessus, passez une excellente journée. On se dit à la prochaine.